Équilibre, contradiction et vérité. Bonjour à tous, à tous les auditeurs et internautes de Radio Ndekeluka. Bienvenue dans votre émission Le Débat Politique Patara. De ce média, aujourd'hui, nous ouvrons un dossier pour l'avenir démocratique et social de notre pays. Le paysage politique actuel fait face à une configuration particulière. Le risque d'une assemblée monocolore alors qu'un seul bloc politique domine largement à l'hémicycle. Une question fondamentale se pose. Cette absence et de fortes contradictions fragilise-t-elle la voix du peuple? Une assemblée sans opposition solide peut-elle efficacement répondre aux urgences sociales? L'exemple de l'inflation et crise quotidienne que vit la population. Pour en débattre aujourd'hui, nous recevons dans ce studio D de Radio Ndekeluka M. Yves Sangami, porte-parole du chef de file de l'opposition à ces jours de l'Oguélé. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons Jean-Symphorien Mampensi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, cadre du parti du président de la République, le MC, le mouvement Le Guerres Unis. Monsieur, bonsoir aussi et bienvenue.
Bonsoir et bonsoir aux auditeurs de Radio Ndekeluka.
En quoi cette assemblée dite monocolore représente-t-elle, selon vous, un danger immédiat pour la démocratie et pour le contrôle des actions du gouvernement? C'est le grand titre de ce débat. Tout de suite, nous ouvrons les discussions. Alors, nous ouvrons cette discussion avec la question posée, Monsieur Jean-Symphorien Mampensi, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Êtes-vous fier de cette configuration aujourd'hui de l'Assemblée nationale?
Je vous remercie de votre question, mais je ne dois qu'être fier. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai affronté le suffrage universel et j'ai été élu député de la nation, comme les autres collègues, donc c'est en soi une fierté, et également une fierté d'appartenir à cette Assemblée nationale, quoique vous la qualifiez de monocolore. Mais il faut savoir que cette Assemblée est issue de la volonté du peuple, donc on ne peut que prendre acte et en être fier.
Est-ce que les actions qui ont précédé en amont, j'allais dire, de la mise en place de cette Assemblée nationale, quand on voit tout ce qui a été fait, les difficultés rencontrées par d'autres partis politiques, tous les micmacs qui ont précédé même les élections législatives de la fois dernière, est-ce qu'on est vraiment sûr d'arriver aujourd'hui à ce que nous appelons une assemblée à majorité absolue?
Je ne sais pas ce que vous parlez par difficulté. Les élections en soi constituent des difficultés. Mais certains partis de l'opposition ont choisi librement, délibérément, de ne pas se présenter aux élections. C'est leur droit le plus absolu. Et donc, ceux qui se sont présentés ont participé à ce suffrage et l'Assemblée est celle qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas le MCU ni la majorité qui a demandé aux autres partis de se retirer. La preuve, l'URC a bel et bien des députés à l'Assemblée nationale.
On écoute, monsieur Yves Sangami. Comme je l'ai dit à l'entente de cette émission, nous reposons la même question pour vous. En quoi une Assemblée dite monocolore représente-t-elle, selon vous, un danger immédiat pour la démocratie et pour le contrôle des actions du gouvernement face à la situation que vit la population actuelle?
Par principe, quand il y a démocratie, il y a nécessairement une opposition. Et contrairement au député Mampensi, je ne peux pas dire que je suis fier de cette Assemblée. Pourquoi je ne suis pas fier de cette Assemblée? Parce que les conditions dans lesquelles les scrutins ont été organisés ne répondaient pas aux standards. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, nous avons tous vu les manipulations qui ont été organisées au niveau des bureaux de vote. L'ANE l'a reconnu. On ne donnait pas aux candidats les feuilles de résultats. Donc, ce n'était pas une compétition équitable. On ne peut pas se taper la poitrine et dire « oui, nous avons la majorité ». Ensuite, même quand vous avez la majorité, ça ne donne pas un chèque en blanc pour pouvoir ne pas faire de la politique. Ne pas faire de la politique, c'est quoi? C'est être une chambre d'enregistrement. Tout ce que le pouvoir emmène, le gouvernement en applaudit et en avance. Ne pas faire de la politique, c'est ne pas servir le peuple. Ne pas servir le peuple, comment? C'est vouloir effacer de manière systématique les Centrafricains de la diaspora ou les Centrafricains binationaux. Ça, ce n'est pas des questions pour lesquelles on peut être fier.
Mais est-ce que vous voulez revenir sur les dispositions de la Constitution du 30 août 2023, mais est-ce que dans la suite normale, tous ceux qui ont été élus, si on vérifie bien, il n'y a pas de binationaux?
Alors, ce n'est pas un crime être binational, mais il faut se conformer à la Constitution. Monsieur Mapenzi soulignait tout à l'heure que certains partis politiques ont fait le choix, vu les conditions, de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, de ne pas présenter de candidat à l'élection. L'URCA a fait un choix contraire. On s'est dit, une constitution est là, elle est en vigueur, elle est promulguée. On va se conformer à cette situation-là et on va aller de l'avant. Parce que le plus important, on ne fait pas de la politique pour soi-même, on fait la politique pour changer les choses, apporter un mieux-être à la population. Et dans cette optique-là, nous avons fait le choix, d'y aller. Notre leader a renoncé à sa nationalité française. Il en avait deux. Il n'en a plus qu'une depuis que le décret de sa renonciation est sorti. Et nous sommes allés aux élections en espérant que les conditions allaient être quand même acceptables. Ce ne fut pas le cas. Et à partir du moment où nous avons accepté ces conditions-là, il est normal d'exiger de tous de respecter les dispositions de la Constitution. Que dit la Constitution? En partie, elle dit que pour être candidat à l'élection présidentielle ou aux élections, il faut avoir une seule nationalité. Ceux de l'Éguélé n'en a qu'une. Et la Cour constitutionnelle a validé sa candidature. Et les autres qui sont nés de pères centrafricains et de mères étrangères,
qui se trouve à l'Assemblée.
qui se trouvent à l'Assemblée, on en dit quoi?
Bon, maintenant, il y a un point soulevé par
Donc,
Monsieur Mappé
ça
tout
va
à
plus
l'heure.
loin, ça va plus
Le
loin.
boycott de.
Non, nous n'avons pas boycotté,
de...
donc on ne va pas parler à la place des gens qui ont
Non, non,
boycotté. Je vous
est-ce que
dis
vous n'êtes pas,
que.
par exemple, dans un regret, si jamais
Non, on ne regrette pas.
Vous étiez sur la même balance de bataille?
On ne regrette rien. Pourquoi? Parce qu'un parti politique, par essence, a pour vocation de diriger un pays. Et il est légitime qu'il se présente aux élections. Si vous ne vous présentez pas aux élections, on ne sait pas comment vous allez diriger un pays. Parce que pour accéder au pouvoir, il faut gagner les élections. Et donc, nous, on accepte ce fait-là. Donc, il n'y a pas de regret.
Oui, monsieur, sur ce point, vous voulez tout à l'heure répondre, mais avec une question encore pour compléter la majorité absolue, n'est-elle pas plutôt un gage de stabilité pour voter rapidement les lois nécessaires au développement sans blocage politique stérile? C'est
Non,
ce
je
que vous voulez
pense
dire
que
tout à l'heure?
non, je pense que ce sont des a priori ou des préjugés. Je vais vous rappeler, un blanc, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais puisque les débats sont publics, lors de la présentation de politique générale du Premier ministre, les débats étaient plus que houleux. C'est pas parce qu'on est tous du même bord que le MCU est majoritaire à l'Assemblée que l'Assemblée nationale va être une chambre d'enregistrement. Au contraire, vous avez vu que quand le Premier ministre était présenté devant l'Assemblée, mais on ne croirait pas que l'Assemblée était à majorité
Mais pour quel
MCU.
résultat? Parce qu'il y a des gens, surtout ceux de la société civile, estiment que c'était même de saupoudrage, hein, c'est de maquillage même d'interpellation du gouvernement. Puisque vous êtes du même bord, ça pose assez de problèmes. Après,
Non,
on ne va pas au-delà de ce qu'on attend de l'Assemblée nationale sur certains points clés.
je ne sais pas ce que vous attendez de l'Assemblée nationale que ce que l'Assemblée donne aujourd'hui. Je vais vous dire, le Premier ministre, quand il a présenté sa politique, il y a eu des interrogations et l'Assemblée nationale a été vraiment critique, mais vigilant sur le truc. Et je vais vous donner un deuxième exemple. Lors du vote de la loi sur la réorganisation ou la libération du sous-secteur pétrolier à Laval, le gouvernement a présenté un projet de loi et qui voudrait que ce soit une équipe technique du ministère qui fasse le contrôle, mais l'Assemblée d'autorité a imposé qu'il y ait un organe, une autorité qui soit un régulateur. Et nous avons imposé ce régulateur
Indépendant
indépendant.
du
Donc,
ministère.
et comme ça se passe ailleurs, donc, ce n'est pas une chambre d'enregistrement, ce n'est pas parce que nous sommes majoritaires. Encore, vous savez, un parti politique, ce n'est pas une chorale. Mais au sein de notre parti, il y a eu des débats. Et il y aura des débats.
Mais
Et ça, je
vous
vous
savez
l'avais.
qu'il y a beaucoup de votes qui ont été faits, ou de beaucoup de lois qui ont été votées par acclamation à majorité pour la 6e législature. On revient avec cette 7e législature, 8e législature, j'allais dire. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de ce que vous qualifiez d'une chambre de résonance ou bien
Non,
d'enregistrement?
je pense qu'il y a une méconnaissance des textes de l'Assemblée. L'Assemblée nationale a plusieurs modes de votation. Il y a par acclamation,
Toujours?
par assis debout, à main levée ou par bulletin secret. Et la loi a déterminé quelles sont les lois qu'on doit voter par bulletin secret. Et il y a certaines catégories de lois qu'il faut voter par scrutin public assis levé, main levée ou par acclamation. Et ça, c'est la loi qui le dit. Si, à l'occasion de l'examen d'un projet de loi, et qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel, ce n'est pas la peine d'aller au bulletin secret. Et on passe au scrutin public. Et...
Mais le problème, c'est que vous interpellez de temps en temps, ça il faut le reconnaître, les membres du gouvernement ou bien le gouvernement en tête, le Premier ministre Félix Mouloua. Mais il y a des sujets sensibles face à la cherté de vie, face à la hausse du prix de carburant et autres. Mais on ne voit pas de changement. C'est pourquoi les gens disent, puisque vous êtes tous de la majorité absolue, est-ce, puisque c'est écrit, vous devez jouer votre rôle, mais au fond, répondre à la préoccupation de la population pose assez de problèmes.
Je pense que vous allez très vite en besoin et cette Assemblée nationale, la 8e, a été installée le 4 mai.
C'est la continuité de la 7e.
Oui,
en tête, le président de cette institution.
Oui, mais ce n'est pas parce que le professeur Simplice Mathieu Sarrani a été reconduit que c'est une continuité. L'Assemblée a une composition différente.
Je vous rappelle le trois quarts des députés.
Mais ça, c'est la volonté du peuple. Ça, on ne peut rien. C'est la volonté du peuple. Ce n'est pas question de certaines républiques. Les élections, contrairement à ce que mon frère Yves l'a dit tout à l'heure, les élections étaient véritablement libres. Il y a eu des candidats du MCI qui ont perdu face à des candidats de l'opposition ou même des candidats indépendants. Ça, en soi, ça constitue déjà une preuve, si l'on en a besoin encore de connaître, une preuve que ces élections étaient vraiment âprement disputées et libres et transparentes. Sinon, je vous l'ai dit, l'URC a des représentants à l'Assemblée nationale. Il y a eu également des indépendants qui ne sont pas affiliés au MCI, qui sont à l'Assemblée nationale.
Oui, M. Yves Sarrami, vous voulez répondre
Moi, je suis quelque peu surpris par les propos de M. Mapenzi sur cette assemblée monocolore. Vous voyez, il dit que ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Ils ont signé un chèque en blanc au pouvoir en place, qui fait ce qu'il veut. Il piétine les institutions. Il piétine les institutions comment ? Il a fait voter une constitution, celle du 30 août 2023, qui dit qu'on ne peut pas être député si on a deux nationalités. Et pourtant, M. Mapenzi, au jour d'aujourd'hui, siège aux côtés de députés binationaux. Ça pose problème.
Lesquels ?
Permettez. Ensuite, on nous dit on menace, on va aller destituer.
Donc, sur ce point, ça veut dire que vous avez une certitude qu'il y a des députés binationaux qui sont à majorité, mais on fait fi de leur proposition puisqu'ils sont de la majorité.
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et le moment venu, le peuple le saura de toutes les manières. Le moment, vous savez, c'est pas difficile. Hein. Pour savoir, je donne un exemple. Pour savoir aujourd'hui si un candidat est français ou pas français, consultez les listes électorales. La consultation des listes électorales en France, elle est libre. N'importe qui est inscrit sur une liste électorale a accès à ça. Donc, on n'est pas là pour faire la langue de bois et de dire « il y en a, vous en êtes sûr ». La liste existe. Elle pourra être rendue publique le moment venu. La liste existe.
Les députés binationaux centrafricains.
Oui, elle existe. Non, donc, je vous ai écouté religieusement. Cette assemblée monocolore, elle n'est pas bonne pour la République. Pourquoi ? Parce qu'elle donne un chèque en blanc au pouvoir en place. Elle donne un chèque en blanc comment ? Et il lui permet de museler l'opposition, de piétiner les institutions. Quand un ministre marche sur les droits des Centrafricains, les droits civiques, par exemple, quand le ministre de l'Intérieur refuse de délivrer, il doit être interpellé, pas d'interpellation. Quand nous sommes au mois de juin, juillet, août, septembre maintenant, il s'est passé un événement monstrueux l'année dernière. Tous ces jeunes enfants, nos enfants qui sont morts au lycée Bouganda pour aller
composer
et qui ont perdu la vie. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et vous savez, le bac, c'est la plus grande étape pour un adolescent. Vous passez le bac, vous avez les portes qui s'ouvrent, l'opportunité de changer votre vie, de changer la vie de votre famille. Ces gens-là n'étaient pas des délinquants, ils ne s'étaient pas donnés à la délinquance. Ils ont étudié pour participer plus tard à la vie de la République et ils ont perdu la vie. J'ai été outré, choqué que un an après, le gouvernement n'ait pas fait de déclaration. Qu'un an après, il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire pour savoir exactement ce qui s'est passé. J'ai été choqué, outré, quand dans le même temps, à la même période, je vois des gens qui vont rendre hommage à côté de l'université à Prigogine. Aucune déclaration du gouvernement pour rendre hommage à ces enfants qui ont été perdus. Il n'y a même pas une seule plaque commémorative qui marque cet incident dans une nation. C'est vraiment dommage. C'est comme s'il n'avait pas existé, que ces enfants n'avaient jamais existé. Vous voyez où sont les priorités? Le gouvernement vit dans son confort. La majorité présidentielle à l'Assemblée vit dans son confort. Pendant ce temps, les Centrafricains, 85%, sont dans l'extrême pauvreté.
On écoute. Oui, vous voulez répondre non, tout à l'heure.
Déjà, je veux dire à mon frère Yves Sangami qu'il parle des événements du lycée Boganda qui se sont passés lorsque c'était la 7e législature. Nous n'étions pas encore installés, donc je ne peux pas parler des événements, hein, des événements passés et dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Maintenant, vous savez que les interpellations du gouvernement se font en session ordinaire. Et il se trouve que la 8e législature a été installée le 4 mai à l'occasion d'une session extraordinaire, puis une deuxième pour accueillir les députés issus et élus au second tour. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'Assemblée n'a pas pouvoir d'interpeller le gouvernement parce que nous ne sommes pas en session extraordinaire. Cependant, il y a des actions qu'on mène.
En session ordinaire.
En session ordinaire. Mais on attend la session ordinaire, ça va débuter en octobre et à l'occasion, vous verrez si oui ou non le gouvernement n'est pas interpellé. Mais encore, vous savez, la
oui,
loi
le gouvernement
a encadré.
Est interpellé, mais le fond.
La loi encadre. Les actions et l'interaction entre l'Assemblée et
des institutions différentes.
Les institutions différentes. Bon, je vois que mon co-débatteur va d'un sujet à l'autre, mais je peux vous rassurer et rassurer tous vos auditeurs que l'Assemblée nationale va jouer pleinement son rôle. Je l'ai dit et vous aurez l'occasion de le constater et de le voir très prochainement que ce n'est ni une chambre d'enregistrement. Et si cette Assemblée est à majorité MCU, c'est encore pas de notre faute. C'est au peuple qui a choisi d'envoyer massivement en majorité les candidats MCU alliés. Mais je le rappelle.
On vous accuse de biaiser la procédure en amont pour favoriser cette majorité.
Non,
moi
je suis allé aux élections comme tous les autres.
On parle du MCU, on ne parle
oui,
pas de vous.
Mais le MCU n'est pas acteur dans l'organisation des élections. Il y a une autorité nationale des élections, il y a le conseil constitutionnel. D'ailleurs, hein, ce conseil a pu valider certaines candidatures et le conseil a bien fait son travail. Le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Les élections se sont bien passées dans des places aux gens de l'URCA parce que c'est le choix du peuple. Il faut s'y rendre et il faut se rendre dans l'évidence que le peuple a choisi massivement les députés MCU.
Non, maintenant, c'est pas ça notre problème.
C'est cette pas majorité, ça notre
problème. Nous avons dénoncé ce qui ne fonctionnait pas.
Non, vous
dans le cadre d'une élection, c'est normal que quand vous
qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous?
On a assisté à des bourrages de urnes. On a eu des photos, on n'a pas eu de feuille de résultat, on n'a pas respecté la loi. Le président de l'ANE l'a reconnu. Donc, il ne faut pas amuser.
Non, il ne faut pas généraliser des cas isolés. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des élections résiduelles.
Oui.
Hein, Sibut, Dekoua, Kaboué et autres. Ça, et même dans la sous-préfecture de Kodi, ça, c'est des cas où les irrégularités ont véritablement entacher la sincérité des élections et le conseil a décidé de leur reprise. Mais là où c'est...
Est-ce que vous écoutez l'autre camp qui entend de dire que tout a été fait à majorité par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre même de l'administration du territoire, mais qui est directement lié dans ces élections,
je vais vous dire.
Pour tout tailler, pour que tous ceux qui sont des candidats du MCU puissent gagner et avoir la majorité. Et c'est ce qui est dit. Donc tout a été fait en amont.
Non,
on va pas refaire
fait.
Le débat sur les
non,
élections.
C'est ce qui a abouti à ce que nous appelons aujourd'hui une assemblée en majorité absolue pour ne pas parler de monocolore.
Écoutez, il y a eu des fortes délégations, je pense. Si le candidat de l'URCA a gagné à Bukaranga, malgré tout ce renfort, ça veut dire que les élections étaient crédibles. Personne n'a empêché aux autres d'aller aux élections. Il y a des candidats MCU qui ont perdu les élections. Donc,
on a vu parfois trois ou quatre candidats du MCU dans une même circonscription.
Non,
il y en a qui sont partis pour le compte, sous la bannière du MCU, d'autres indépendants. D'autres
nous n'allons pas refaire les élections.
C'est pour dire qu'il y a des actions qui ont été menées pour arriver à ce niveau. Mais maintenant, la crainte, c'est de voir, est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir jouer à la continuité de la 7e législature,
non, mais
puisque
vous savez,
c'est presque un cas.
À vous entendre parler, vous, Armando, comme mon co-débatteur, vous avez des a priori. Les élections ont été âprement disputées. Certains candidats de MCU ont perdu. Le peuple, dans sa souveraineté, a choisi d'envoyer majoritairement l'Assemblée des candidats MCU. Et ça, c'est la volonté populaire. Nulle part...
J'espère que le temps de parole sera égal.
S'il vous plaît, c'est moi qui contrôle.
J'ose espérer.
Je le fais d'habitude, je vous en prie.
Nulle part, on a décidé de désigner un candidat élu alors qu'il a perdu. Ça a été le cas. Les cas où il y a eu des irrégularités avérées, le conseil a annulé et ils sont en train d'être repris.
On n'est pas sur ce point. On est sur le fait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui est appelée à contrôler l'action du gouvernement et à majorité, mais le gouvernement aussi, c'est vraiment dans une même, pour ne pas dire dans une même, même assiette politique, ça peut poser assez de soucis.
Il y a deux choses. Notre crainte en tant que citoyen, c'est que cette Assemblée, majoritairement MCU, fasse son travail comme il se doit. Nous avons peur qu'elle baisse la tête dès que le gouvernement lève le ton et qu'elle ne soit pas l'outil de contrôle que l'État centrafricain s'est donné. Le travail de l'Assemblée, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Notre plus grande peur est qu'il ne joue pas ce rôle-là et qu'en fait, ils deviennent une caisse de résonance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai, ils ne sont pas en session. Oui, session extraordinaire, mais il y a un bureau qui
fonctionne.
Quand un député subit une mesure arbitraire comme celle qui frappe le président de l'URCA, je suis sidéré que le bureau de l'Assemblée ne réagisse pas. Il n'y a pas eu de communiqué. Il n'y a pas eu une dénonciation de ces faits-là. C'est quand même quelque chose de pas courant qu'un député se voit refuser son passeport. Pourquoi ? Alors que les choses en amont ont été claires, la Cour constitutionnelle a bien édicté que M. Doléguélé était centrafricain sans discontinuité et qu'à ce titre, il n'y avait pas lieu de lui appliquer une procédure de réintégration, noir sur blanc. Les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous. Le président de la République a été ampliataire de la décision, tout comme le président de l'Assemblée nationale, tout comme le gouvernement. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est comme si on voudrait refaire le film. Vous savez, les films ont fait série 1, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Et bien là, on est dans le même scénario. Avant les élections, nationalité de Doléguélé. Pendant les élections, nationalité de Doléguélé. Après les élections, après sa victoire, son installation. Et puis, on se pose des questions.
Le bureau de l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcé pour l'instant. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vite aux besoins par rapport à cette situation ?
Non, je suis désolé. Je dis ce qui est. Une liste d'il y a 130 ou 120 députés, excusez-moi, je ne connais
139.
Pas. 139. On demande à l'administration de leur établir un passeport diplomatique parce qu'ils en ont droit. Et il se trouve que l'un d'entre eux est retiré du lot.
Et donc, ça appelle. Et c'est à ce niveau-là que vous dites que l'Assemblée, le bureau ne s'est pas encore prononcé.
Laissez-moi dire ce que je vais dire.
C'est moi qui répondis, donc je vous en prie. Laissez-moi faire mon travail.
Permettez. Je trouve curieux qu'à l'occasion de ce fait-là, insolite, le bureau de l'Assemblée n'ait pas réagi.
Et donc, votre crainte, ça se situe à ce niveau. Ça veut dire que sur ce cas, vous pourriez bien généraliser pour d'autres cas à venir.
Non, je ne généralise pas. Je dis, cette Assemblée monocolore, moi, il s'est passé deux choses. La première, c'est sa non-réaction du bureau de l'Assemblée face à ce qui arrive à l'un de ses membres. Deux, j'ai peur que cette Assemblée monocolore baisse la tête si le gouvernement lève le ton sur un certain nombre de sujets.
Et ça, M. Mapenzo, vous a déjà rassuré qu'ils viennent de commencer, ce n'est que l'entame même de...
Ce sont les faits qui rassurent. Oui, alors, on verra ça au fil du temps.
Je pense que...
La question, c'est de dire pourquoi vous n'avez pas pu... la question de la solidarité. Si le gouvernement parle de la solidarité, l'un de vous...
L'objet du débat, c'était sur l'Assemblée nationale. Mais non, de manière insidieuse...
On parle de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale.
Non, mais je pense que
il répond, monsieur Yves Sangaré.
Vous ai dit, il faut respecter le... Non, je pense que Yves Sangaré n'a pas toutes les informations. Et le député de Le Guélé ne nous avait pas saisi. Nous avions appris. Nous avions appris sur les réseaux que le passeport était refusé. Je précise que quand sa demande est venue, l'Assemblée a bel et bien marqué son accord pour le faire. Maintenant, quand il y a eu des difficultés, il n'est pas revenu vers nous. Nous l'avons appris sur les réseaux sociaux. Et moi, au
la
nom
du... La démarche est collective ou bien individuelle?
Non, la démarche est individuelle, la demande...
Pour avoir le passeport diplomatique.
La démarche est individuelle, elle n'est pas collective, mais chaque député ayant droit, l'Assemblée doit d'abord marquer son accord avant de déclencher la procédure.
Est-ce que vous l'avez fait pour lui?
Nous l'avons fait pour lui, d'ailleurs ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Ça a été fait, mais... Le problème, c'est quoi?
La séparation du pouvoir à ce niveau, vous devez réagir. Vous avez marqué votre accord en tant que l'exécutif a refusé d'obtempérer.
J'en viens. Souffrez que je vous donne les éléments qui sont en notre portée et vous allez apprécier. Quand nous avons su qu'il y a des difficultés, j'ai été mandaté par le bureau en tant que celui qui s'occupe de l'administration et des relations publiques. Je me suis rapproché des services de passeport qui me disent que l'administration a été notifiée d'une décision de justice retirant la nationalité à M. De Le Guélé.
Un député.
Et pour eux, cette décision de justice, M. Armando, s'impose à l'administration. Et donc, voilà le problème.
Dans le même temps, le député de Le Guélé étranger, apatride selon cette administration, siège à l'Assemblée nationale. Quand même extraordinaire.
S'il faut poser le débat, il faut bien le poser pour que le peuple, à travers Anne de Kluka, connaisse la vérité.
Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on ne va pas tergiverser sur ce point. Mais quelle est la réaction? Parce qu'on ne va pas.
Nous avons proposé aux députés de Le Guélé ce qui a lieu de faire. Vous savez, nous ne remplaçons pas l'administration. Nous sommes l'Assemblée nationale. Les rôles sont bien définis, les attributions également. Chaque institution doit jouer son rôle. Nous lui avons dit, face à ce blocage, le seul moyen pour lui d'obtenir son passeport, c'est de faire une demande à réintégration. Ce qu'il a refusé.
Et c'est ce que l'exécutif a dit. Donc ça veut dire que vous rejoignez la crainte même de...
Mais pourquoi, je vais vous dire.
Ce qu'il faut retenir dans cette affaire...
J'ai la parole.
Oui.
Oui, vous la monopolisez depuis tout à l'heure.
Allez-y
s'il vous plaît. C'est moi qui distribue la parole.
Vous posez un problème, je suis en train de vous répondre, vous m'interrompez. Pourquoi? Il faut bien lire la décision du Conseil consulaire. Nous ne sommes pas là ici pour faire le débat là-dessus.
Oui.
Le seul moyen aujourd'hui, j'ai dit, il y a un juge, et si vous lisez le code de la nationalité...
La décision de la Cour constitutionnelle ou le code de la nationalité?
La loi donne, c'est le tribunal de grande instance qui est seul habilité à trancher le problème de nationalité. C'est ce que dit la loi. Le juge constitutionnel n'est pas juge de la légalité. Il ne faut pas faire de confusion.
Et donc maintenant, ce qu'on attend, c'est que...
Le juge de la légalité, TGI. Dès lors qu'il y a une décision
de
TGI...
Le juge de la légalité...
S'il vous plaît, on fait court. On fait court pour ne pas...
Je ne savais pas que c'était au TGI qu'on contrôlait la légalité des lois.
On fait court. Ça veut dire qu'à aujourd'hui ou au moment où nous vous parlons, ça veut dire que nous avons sur 139 députés en exercice, 139... un député qui exerce au nom du peuple, au nom qui vote même déjà cette loi que vous avez dit tout à l'heure, loi du contrôle du secteur pétrolier, qui a déjà voté cette loi qui va entrer en vigueur, et on a quelqu'un qui n'a pas de nationalité.
Non, si vous posez le débat comme ça, on ne va pas s'en sortir. Soit on débat de l'Assemblée, soit vous voulez qu'on débatte.
Non, on veut parler de passeport. Non, on parle pas de
passeport. Moi, je faisais juste une remarque pour dire ceci. Je termine là-dessus. Si l'Assemblée nationale n'est pas en mesure de défendre les droits d'un de ses membres, comment elle pourra défendre les droits de l'autre? C'est ça ma question.
Non, nous ne pouvons pas remplacer l'administration. Le problème de Deleguélé ne peut pas vous faire ou laisser croire que l'Assemblée est différente. Non.
Je pose une question. Si vous ne pouvez pas défendre un des vôtres, comment allez-vous défendre n'est pas forcément le droit des Centrafricains?
Il se trouve que, M. Yves Sangami, il se trouve que, avant la décision du Conseil constitutionnel, ou après, je n'ai pas bien la chronologie des choses, un juge, même si, parce que j'ai suivi le magistrat Benoumi par Ndekeluka, a pris une ordonnance sur requête pour lui retirer la nationalité. Ça reste une décision de justice. Tant que cette décision de justice n'est pas été reformée par une instance supérieure, elle est opposable à l'administration.
Mais l'instance supérieure, c'est quoi? C'est pas le Conseil constitutionnel qui est
non,
la
je
cour,
vous dis,
la cour suprême.
Le Conseil constitutionnel n'est pas juste de la légalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Armando, quelqu'un viole la loi, c'est pas le Conseil constitutionnel qui va le poursuivre. C'est bien le tribunal de grande instance.
Mais l'un des critères d'éligibilité.
Non, ne mélangez pas les choses. Le Conseil a dit.
Oui.
Le Conseil a dit. Moi, Conseil, au moment où j'analyse les candidatures,
avec la position du gouvernement, avec la position de M. Ngamana.
Parce que
c'est étonnant.
Non, c'est pas ça.
Ah si, vous développez les mêmes arguments.
Je suis député, je suis législateur.
C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Vous êtes devenu la caisse de résonance du régime, du gouvernement.
Suivez mon raisonnement. Au moment où le Conseil analysait, était en train de statuer sur les candidatures, le Conseil a dit, à ce jour-là, je n'ai pas été notifié d'un décret lui retirant la nationalité. Mais le Conseil a parlé de décret, mais je veux vous dire, il y a deux voies. Soit la voie administrative, c'est-à-dire le décret, soit la voie judiciaire.
Maintenant, la question de la solidarité, ça veut dire que...
Non, on ne peut pas être solidaire.
La crainte de l'URCA et de certains, par exemple, de l'URCA, c'est que aujourd'hui, tel que c'est parti, l'Assemblée serait obligée de se désolidariser, comme
savez,
vous l'avez dit,
c'est
de votre collègue.
Quand il arrive dans une ville, il voit une femme avec les tresses, on va dire toutes les femmes sont tressées de la même manière. Non, ça c'est un cas isolé. Je l'ai dit, moi en tant que premier vice-président, j'ai reçu le député de Deleguélé. Ensuite, nous l'avons reçu, le président de l'Assemblée nationale et moi. Nous lui avons indiqué ce qu'il fallait faire pour mettre un terme à ça. J'espère qu'il a promis revenir vers nous. J'espère que c'est pour ça que je ne veux pas anticiper sur ce qui va se passer.
Nous l'avons reçu
il y a quelques jours. Donc, je ne veux pas valider. Et si vous voulez, mon point de vue rejoint celui du gouvernement, c'est sur un point. Il y a eu, n'oublions pas, parce que nous parlons...
Ça veut dire que le porte-parole du gouvernement est en train de demander qu'on va vous saisir s'il y a lieu de...
On parlait du bureau de l'Assemblée. On ne parle pas de votre position personnelle.
On n'a pas encore
été... Je parle du bureau de l'Assemblée.
On n'a pas encore été saisi officiellement par le gouvernement sur cette question. Donc, je ne peux pas préjuger de ce qui va arriver.
Le gouvernement en majorité et parlement...
Non. Je vous dis, n'oublions pas, dans le dossier de Deleguélé, qu'il y a eu une décision de justice. Et que cette décision... n'est pas encore été reformé sur le principe de double degré de juridiction, ni il n'y a aucune instance supérieure qui a réformé cette décision. Et donc,
à supposer que M. Deleguélé...
Répétez bien tout ce que M. Ngamana dit, et c'est extraordinaire.
Vous
prouvez que vous allez devenir caisse de résonance du gouvernement.
On va mettre fin. Chris Roy-Jordan Badengbe, vous avez lu le rapport. Quand on parle tout à l'heure du rôle de l'Assemblée nationale, il y a le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui a... pondu un rapport ces derniers mois sur les conditions de vie des Centrafricains. Et ces conditions de vie, si l'Assemblée ne fait pas bien son travail pour contrôler l'action du gouvernement, ces conditions de vie seront de plus en plus difficiles pour la population centrafricaine. Chris Roy-Jordan Badengbe.
Selon ce rapport, la RCA occupe la 191e place sur 193 pays en matière de développement humain. L'étude menée sur une population de plus de 6 400 000 habitants révèle que seuls 8% des ménages ont accès à l'électricité et 36% à l'eau potable. Le document souligne également la précarité des conditions de vie. Le taux de sous-emploi atteint 36%. 3 Centrafricains sur 10 souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Dans le secteur de l'éducation, 68% des femmes ne sont pas scolarisées et 42% des hommes sont analphabètes. Les crises politico-militaires successives expliquent en grande partie cette situation. L'organisation affirme poursuivre ses actions pour soutenir la relance économique et améliorer les conditions de vie des populations. De son côté, le gouvernement met en avant les efforts engagés pour le développement du pays, notamment à travers le Plan national de développement PND, un programme de plus de 7 000 milliards de francs CFA destiné au relèvement économique de la RCA.
Voilà, vous avez compris, hein, monsieur Mapensi, ce rapport du programme de Nations Unies pour le développement qui a classé le pays, la personne africaine, sur ce rang que vous avez écouté dans le reportage. La crainte et la peur, c'est que si rien n'est fait de la part du gouvernement, ça risquerait bien fort de compliquer la vie à la population africaine qui vit déjà, excusez-moi cette redondance, qui vit déjà une situation où tout est presque même rouge, le prix des denrées alimentaires, le carburant, la dégradation des routes à l'intérieur du pays. Puisque vous avez commencé le travail, est-ce que vous avez prévu dans l'agenda d'interpeller le gouvernement sur ces points?
Mais avant de vous répondre, vous savez, dans le reportage, il est évoqué les raisons principales là, de cette crise-là. Il y a les crises politiques à répétition, mais il y a aussi la conjoncture mondiale qui font en sorte que nous ne dénions pas, nous ne nions pas la situation actuelle. En tant que députés, nous sommes les mieux placés pour connaître les problèmes de population. Je vous rappelle que le Premier ministre est passé devant l'Assemblée. Nous avons sa déclaration politique générale. Nous l'attendons à l'œuvre. Et à l'occasion des prochaines sessions, nous ne manquerons pas d'interpeller le gouvernement si d'aventure il y a des dérapages connus et nous allons interpeller le gouvernement là-dessus. Nous ne pouvons pas préjuger des actions que nous allons mener prochainement. Mais je vous rappelle que je vous avais parlé ici de la loi qui réorganise le sous-secteur pétrolier, qui va aussi, qui fait partie des actions que le gouvernement doit mener d'ici à là pour résorber, tout du moins atténuer les effets de cette crise-là.
Oui, voilà, monsieur donc, Yves Sangami, sur ce que vous venez d'écouter, qu'attendez-vous de l'Assemblée nationale pour jouer son rôle afin de rehausser le niveau et contrôler les actions du gouvernement?
Je ne suis pas député, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce que je dois faire.
Qu'attendez-vous de l'Assemblée nationale?
Moi, personnellement, je n'attends pas grand-chose. Vu ce que la manière dont fonctionne le MCU, je m'attends pas à grand-chose. Par contre, ce que je sais, c'est que moi, je suis là pour représenter les 85% des Centrafricains qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et ici, l'Assemblée aurait dû jouer un rôle. Jouer son rôle, c'était éviter l'évasion fiscale. Où va l'argent de l'or? Où va l'argent du bois? Pourquoi cet argent ne sert pas à financer des infrastructures? Il nous manque aujourd'hui 6 000 personnels soignants, 18 000 enseignants pour le primaire. Pourquoi l'État, le gouvernement, Moloua 1, Moloua 2, n'a pas créé les conditions pour pouvoir faire en sorte que le Centrafricain vive mieux? Il n'y a pas que la Centrafrique qui subit le contre-coup de, l'environnement international. Tous les pays du monde le subissent. Nos voisins les plus proches le subissent. Le Tchad, qui est un pays enclavé, le subit aussi. Mais il n'y a qu'en Centrafrique où il n'y a pas de résultat. On nous parle de PND, c'est bien beau le PND. Mais nous avons eu le RCPCA. Où est parti l'argent du RCPCA? Et on parle de PND, oui, c'est une déclaration d'intention, c'est vrai. Où sont les financements? Quels sont les bailleurs internationaux qui ont mis de l'argent sur la table? Les gens ne veulent pas mettre d'argent parce que le pays n'est pas attractif. Il n'est pas attractif, pourquoi? Parce que l'État n'a pas créé les conditions pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Les gens pillent les deniers publics, ils ne sont pas punis. Pire, on les reconduit au gouvernement.
Vous en avez les preuves?
Vous êtes député, je crois. Il vous appartient de pouvoir faire ce travail. Au lieu de me poser la question, quand vous avez votre Premier ministre qui va chez vous pour dire « je fais ma déclaration de politique générale », tous les jours, les bailleurs nous opposent des détournements de fonds. Ça et là, vous avez parlé tout à l'heure du sous-secteur aval. n'est-ce pas?
C'est une réorganisation.
Vous en avez parlé, non?
Oui.
OK. Autrefois, c'est que le secteur pétrolier finançait 25% de nos recettes, approximativement. Depuis qu'on a confié l'achat du carburant à Neptune, cette société opaque.
Mais pourquoi on lui a confié?
Mais c'est pas le pourquoi. Laissez-moi finir.
Mais quand vous parlez, depuis vous devez savoir pourquoi.
Depuis qu'on a confié à Neptune, les recettes fiscales ont fondu au soleil. Elles sont descendues en dessous de 10%. Quelqu'un qui, un citoyen normal, un député normal, doit être interpellé par cette situation et crier. Combien de députés ont décrié? Combien de députés ont crié? Combien de fois on a dit au ministre de l'énergie, ce n'est pas la bonne voie? On a tous accepté, en tous les cas, vous, les députés, vous avez tous accepté que l'État centrafricain perde sur ce dossier 15% de ses recettes. Ce n'est pas normal.
Non, vous affirmez des choses sans preuve.
C'est
très dangereux pour la République.
Il vous arrive de lire les rapports.
Il ne faut pas contester pour contester. C'est vrai que vous êtes de l'opposition, mais il ne faut pas s'opposer à tout. Je vous ai dit, avez-vous les preuves de vos allégations?
Je vous réponds. S'il vous arrivait de lire les rapports de la BAD, du FMI, les rapports de l'audit qui a été commandité
par le... Vous parlez des choses que certaines personnes ont dites.
Commandité par le gouvernement, je suis désolé, les chiffres sont là.
Les chiffres sont où, je ne les vois pas.
Je n'invente rien. Je n'invente rien.
Et maintenant la question, monsieur le député, premier vice-président Jean-Séphore Mappé, est-ce que vous avez, au niveau des MCU, le gouvernement, la majorité, est-ce que vous avez le temps de lire ce rapport et de voir s'il y a des choses qui ne sont pas erronées ou il y a des choses qui concordent à ce que vous détenez?
Vous savez, à vous entendre parler ou à entendre parler mon co-débatteur, j'ai comme l'impression que nous ne vivons pas dans un même monde.
Non, je vous pose la question.
Ça, c'est sûr. Nous visons à côté du peuple, par exemple, vous vivez dans votre confort.
S'il vous plaît. Moi, par exemple, j'ai lu le rapport, oui. Mais il est aussi difficile de voir le rapport du gouvernement. Et on vous pose la question sur ce point. Est-ce que vous qui êtes de majorité, est-ce que vous arrivez à lire? S'il y a des rapports, il y a des rapports qui ne sont pas aussi, qui ne concordent pas à la réalité. Est-ce que vous avez eu le temps de lire pour le dénoncer?
Je vais vous dire, ces rapports sont destinés au gouvernement, à l'Assemblée, à toutes les institutions. Donc nous avons l'occasion...
Donc vous avez lu quand même.
Mais ne le lisez pas en diagonale. Ne le prenez pas au mot. Il faut analyser. Derrière les chiffres, qu'est-ce qu'il y a? Et la situation, qu'est-ce qui a causé? Il faut voir les effets, les causes, les effets, le pourquoi du comment. Il ne faut pas le prendre comme...
Mais c'est parce qu'il n'y a pas de transparence.
Non.
Il n'y a pas de transparence.
Vous savez, ces chiffres sortent d'où?
Vous l'écoutez, monsieur Yves
Salamé. Le sort de la République par un contrat de gré à gré avec une société opaque.
Non, mais vous revenez sur la même chose. Si le gouvernement avait été contraint
par qui
de donner... Laissez-moi finir.
Allez-y. Parce que... Non, non, vous le laissez
est-ce
finir.
Que, est-ce
non,
que vous voulez...
Je suis étonné non, par non, la
non,
démarche.
Vous avez... Non, non, non.
Je m'adresse à un député qui doit être dans le contrôle et qui est en train de justifier une gestion.
Non, il est de la majorité.
Je ne suis pas de l'exécution. Il explique ce qui s'est passé. Je suis en train de vous expliquer.
Au micro.
Si le gouvernement...
Donc il faut
autrement dit, il faut le laisser parler seul.
Mais vous le laissez passer, oui. Allez-y.
Il parle de choses dont il n'a pas la maîtrise.
Non, expliquez.
Il parle de chiffres dont il n'a pas. Il avance des allégations dont il n'a pas les preuves. C'est dangereux pour la
République.
J'ai
posé des questions.
Et la prochaine fois, je pense que...
Il ne faut pas faire du sensationnel.
Ce n'est pas du sensationnel.
Vous n'avez pas la matière. Vous n'avez pas la maîtrise de ce que vous dites. Vous savez, gérer une République est très difficile. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas avec un coup de bâton magique. Ne vous opposez pas à tout, sinon vous perdez... votre raison de vivre. Vous êtes de l'opposition, c'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on doit critiquer à tout va.
Mais je critique ce qui ne va pas dans mon pays. Quand je perds 15 points sur les revenus de la fiscalité pétrolière,
d'où sortez-vous ces chiffres-là?
Je suis en droit, en tant que citoyen, de vous interpeller, le député que vous êtes.
Je vous pose la
question. Est-ce que c'est mauvais?
Pourquoi est-ce que le gouvernement était obligé de faire appel à Neptune? Vous pouvez
je
me
ne
dire.
Je ne suis pas du gouvernement.
Mais donc,
mais en tant que citoyen, donc, j'ai ce droit
je suis
et ce
désolé,
droit
mais
de poser une bon, question.
Je okay. suis désolé.
Oui, oui, allez-y.
Je l'ai suivi religieusement. Je voudrais que pour la clarté des débats et pour le respect de nos auditeurs, que Yves Sangami se calme un peu.
Prenez une minute de votre chrono, il va vous écouter maintenant. Allez-y.
Il n'y a que vous qui me voyez.
Non, monsieur Yves Sangami, vous n'avez pas la parole.
Mais bien sûr, parce que vous affirmez des choses qui n'existent pas.
Ah bon?
Ah oui, vous parlez de détournement par-ci, vous parlez de perte de 15 points. Je vous pose la question, vous êtes incapable de me dire pourquoi.
Mais je vous réponds, et vous donc, ne m'écoutez pas. Je vous dis...
Parce que tout ce que vous dites sont des balivernes.
Ah bon?
Oui. Vous savez, gérer un pays est très difficile. La critique est aisée, mais l'art est difficile.
Mais je vous ai dit tout à
l'heure.
Vous
savez,
monsieur Mapenzi, il faut avoir l'habitude de lire. Les rapports dont je vous ai parlé, je les ai lus en long et en large.
Oui.
Donc,
et ces rapports, dans ce même rapport, il est dit le pourquoi du comment.
Vous savez,
on est bien d'accord.
Aujourd'hui, on se trouve dans quelle situation?
Expliquez-le-moi.
85% des revenus ont été utilisés pour payer les salaires. Il nous reste, n'est-ce pas? Ce sont des fonctionnaires, des compatriotes qui travaillent. Il faut les payer. Pas de problème avec ça.
Et vous voulez qu'on fasse comme à l'époque
non,
où on va cumuler
je vous demande simplement,
10, 11, 12, 2 ans d'arrêt de salaire?
Non, je vous demande...
Il faut bien payer les fonctionnaires.
Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les payer.
Et c'est une mauvaise chose de payer les fonctionnaires?
Non, ce qui est mauvais, c'est la prévision.
La prévision de quoi?
Une mauvaise planification qui fait en sorte que vous n'avez plus
vous savez,
15% pour soigner les gens, pour éduquer la population, pour construire des routes, etc., etc.
Mais c'est Est-ce une conjoncture pouvez... globale.
Oui,
c'est une
la planification.
Monsieur Yves,
quelle planification?
Accordez 30 secondes à monsieur Mapenzi pour qu'il boucle, pour vraiment que le chrono soit...
Vous savez, au niveau du pays de la CEMAC, nous sommes le pays le moins endetté. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi?
On a 56% de dette. Hein,
non,
de notre
on est le moins endetté.
56%.
On est le pays le moins endetté.
Oui, j'ai les chiffres.
Au moins ça.
56%
du PIB. On n'est
pas producteur
de pétrole comme les autres.
56% du PIB.
Tous les autres sont producteurs de pétrole. Nous, non. Il faut voir que de ce côté-là, il y a des efforts qui sont faits.
Sauf que vous n'avancez pas les chiffres. Moi, je vous donne des faits. 56% du PIB centrafricain représente notre dette.
Je pense qu'il faut parler des choses dont vous avez la maîtrise.
Bon.
Nous sommes le pays le moins endetté de la zone CEMAC, alors que nous sommes enclavés, nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Si déjà l'État fait des efforts pour payer les salaires à terme échu, c'est déjà bonne chose si vous voulez qu'on revienne à une époque dont je ne veux pas venir parler ici, à une époque où les fonctionnaires vont tirer le diable par la queue. Bon, bravo, mais on n'arrivera pas à ça.
On voit les routes, quand on voit comment les femmes elles se plaignent au marché de Sika, au marché de Miskine, au marché de Babara,
elle est mondiale.
Quand on voit comment les gens meurent dans nos hôpitaux,
elle n'est pas seulement centrafricaine.
Parce qu'il n'y a pas de médicaments.
C'est une conjoncture internationale.
Mais les autres gouvernements arrivent à soigner leur population.
Bon, s'il vous plaît, écoutez. Bon.
Sinon, 240 élèves pour un enseignant.
C'est la fin. Je pense
qu'il y en a.
Je pense que le débat est passionnant. Merci beaucoup. Le temps est parti. Notre échange touche à sa fin. C'est le moment de la conclusion. Vous avez chacun une minute pour votre mot de fin. D'abord, M. Yves Sangami.
Mais je suis vraiment attristé pour nos concitoyens. Et j'en appelle à leur prise de conscience pour faire en sorte que chaque député qu'ils ont voté, qui est à l'Assemblée, puisse vraiment faire son travail de contrôle de l'action gouvernementale. C'est vrai, nous sommes de l'opposition, mais être de l'opposition ne veut pas dire ne pas être centrafricain. Nous sommes prêts, et nous le faisons, à participer au débat. Quand on critique, c'est pour que la majorité fasse mieux. Mais quand on veut bâillonner l'opposition, vous ne pouvez pas avoir de critique. La critique, elle est toujours constructive. Il faut savoir écouter. Quand on marche sur les institutions, la démocratie s'en va. Et ce que nous disons au jour d'aujourd'hui, à chaque Centrafricain, c'est d'être vigilant, d'être à l'écoute. L'URCA fera son travail d'opposition. Nous allons contrôler, dénoncer, proposer. Nous allons attirer l'attention des gouvernants.
Merci.
Il vous appartient d'écouter.
Voilà, une minute
terminée. Termine.
Oui, chutez.
Nous appelons vraiment l'Assemblée nationale, parce que vous êtes député, donc je m'adresse à tous les députés, de contrôler l'action gouvernementale dans le but que l'argent public serve au plus grand nombre et au bien-être des Centrafricains.
Symphonie Mapenzi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous concluez.
Je voulais rassurer tous vos auditeurs et au-delà le peuple centrafricain que l'Assemblée nationale qu'ils ont délibérément choisi de mettre en place va jouer son rôle, oui. Va jouer pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et du vote de loi. Ensuite, j'ai un petit conseil. Il faudrait que qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, nous devons être respectueux de nos institutions et des lois de la République.
C'est sur ce mot que se referme ce numéro de Patara. Merci à nos deux invités pour la clarté et la courtoisie des débats. Une assemblée unie pour accélérer les réformes et une assemblée populariste pour mieux surveiller l'exécutif. Le débat reste ouvert dans l'opinion publique. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour votre fidélité. Restez à l'écoute des programmes de Radio Ndikiluka. Je vous souhaite un très bon week-end à samedi prochain. Mais prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.